Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. C'est une curiosité dans la crise financière actuelle. Les pays émergents semblent épargnés par la tempête. Pourquoi et pour combien de temps? Est-ce dû à des facteurs durables ou est-ce un simple concours de circonstances? Et si effectivement les pays émergents sont indépendants des flux et reflux de l'économie et de la finance des pays fortement industrialisés, pourraient-ils porter à leur tour la croissance et pourquoi pas, faisons une hypothèse un peu folle, prendre le relais des États-Unis? Jacques de la Rosière, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé le Fonds monétaire international, vous avez exercé la fonction de gouverneur à la Banque de France et à la Banque européenne Baird, vous êtes actuellement conseiller auprès du président de la banque BNP Paribas et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, Jacques de la Rosière, pourquoi est-ce que les pays émergents ne sont pas touchés jusqu'à présent par la crise qui a commencé à l'été 2007? Comme nous l'avons vu dans une précédente émission, les pays émergents accumulent de considérables excédents courants dans la balance des paiements mondiaux. Est-ce que c'est lié?
Oui, elles sont liées. Vous avez raison de le dire. Les pays émergents accumulent chaque année, depuis environ 2002, des excédents annuels courants considérables. En 2007, ils étaient de l'ordre de 680 milliards de dollars, alors que le déficit structurel américain, qui est la contrepartie de ces surplus, a atteint cette année-là 780 milliards de dollars. Il est évident que le temps passant, cette accumulation de surplus engendre des accroissements de réserves détenues par les pays émergents. Ces réserves dépassent maintenant 3 trilliards de dollars, c'était seulement 1 trilliard en 2000, et ces réserves représentent maintenant à peu près les 3/4 des réserves mondiales. Alors, il faut bien comprendre que...
C'est un matelas qui les protège en cas de crise,
c'est exactement ça. Et ça leur permet aussi de rembourser un certain nombre de leurs emprunts passés. Et ça les met en bien meilleure position quand il y a une crise financière. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, quand les crises financières atteignaient les pays émergents, c'était les premiers frappés. Ils n'avaient pas de coussin de sécurité, ils avaient beaucoup de dettes et ils étaient immédiatement en difficulté. Cette fois-ci, pour des raisons qui sont structurelles, je réponds à la question que vous avez posée au début, parce que ça se manifeste maintenant année après année, depuis une dizaine d'années. Pour des raisons structurelles, ces pays ont atteint des niveaux de réserve extraordinairement confortables. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant, et j'en viens à votre question de fond, qui est l'objet de notre conversation, est-ce que ça veut dire pour autant que ces pays sont immunisés des hauts et des bas des économies occidentales et qu'ils peuvent assurer à eux seuls, comme vous le disiez, la croissance mondiale? Alors, je crois que ça, c'est une vue beaucoup trop simpliste. Mm-hmm. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, si vous êtes d'accord.
Bien sûr. Déjà, expliquez-nous si cette indépendance, vous l'avez dit, est structurelle. Elle est structurelle, mais forcément sur un temps donné. Et elle est toute relative.
Enfin, oui, elle est relative. Je crois que vous avez exactement dit ce qui va nous permettre d'éclairer le débat. Elle est relative. C'est une forme d'indépendance financière que d'avoir de très larges réserves et d'être les créanciers du monde. Mais malgré ces excédents de balance des paiements courants, il faut savoir que les pays émergents demeurent encore des importateurs nets de capitaux privés en provenance des pays industrialisés. Alors, vous me direz, c'est peut-être paradoxal, j'ai des surplus commerciaux et de services, et en même temps, j'absorbe des capitaux extérieurs. Et oui, parce que ces pays ont des marchés financiers locaux assez faibles, ils ont de très gros besoins d'investissement, notamment d'investissement d'infrastructures, et ils ont besoin du capital extérieur mondial. Par exemple, on a fait un calcul en 2007, bien que les excédents de ces pays aient été considérables, comme je l'ai dit, ils ont emprunté en termes nets, c'est-à-dire ils exportent aussi des capitaux, mais quand on prend le net, ils ont emprunté 600 milliards de dollars de l'extérieur. Ce qui d'ailleurs contribue à expliquer la très très rapide augmentation de leurs réserves. Mais ça montre que Si ces pays ont acquis une certaine indépendance structurelle, si vous voulez, sur le plan financier, au point de vue du bilan entre dette et actifs, ils sont encore très tributaires des marchés financiers qui sont beaucoup plus développés dans des pays comme les États-Unis, l'Europe ou le Japon. Donc ça, c'est une première relativisation du phénomène.
Et puis, de façon générale, on ne peut pas être totalement indépendant aujourd'hui dans le monde intégré économiquement et financièrement tel qu'il est.
Mais décidément, vous mettez le doigt toujours sur le point juste. Et c'est ce qui me conduit, si vous voulez, à la deuxième partie de ce qu'on va dire. C'est qu'ils ne sont pas indépendants en ce sens que le monde est devenu un monde beaucoup plus intégré sur le plan des affaires, des mouvements commerciaux, et qu'ils ne l'étaient il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc, le fait que le monde soit plus intégré, qu'il y ait plus de commerce international, que pour $1 de PIB en plus, il y ait plus de contenu, marchandises exportées ou importées, ce fait-là devrait normalement, et je crois qu'il va normalement, se traduire par une plus grande incidence des vagues ou des ondes de choc, si vous voulez, entre un groupe de pays, comme par exemple les pays occidentaux, les États-Unis et le reste du monde, précisément parce que le système est plus intégré. Et on peut ajouter que, puisque la question tourne maintenant un peu autour de que se passera-t-il s'il y a une forte récession aux États-Unis, on note que cette intensification des échanges internationaux, celle qui s'est le plus développé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est celle avec les États-Unis. Les États-Unis sont devenus maintenant le premier importateur de produits venant des pays émergents. Et donc, si les États-Unis souffrent une crise économique, un ralentissement très marqué de leur économie, il est évident que cela ne pourra avoir que des effets en matière de transmission mondiale. Et puis, il y a l'aspect un peu conjoncturel, mais important de la crise financière actuelle, c'est que, comme je le disais, les pays émergents sont encore dépendants du capital extérieur, et une partie de ce capital extérieur est sous forme de prêts. Et donc, le fait qu'il y ait un credit crunch, c'est-à-dire un resserrement des conditions d'octroi de crédit par les systèmes financiers occidentaux, qui sont l'objet de cette grande crise des subprimes dont on a parlé dans une autre émission, la facilité à créer du crédit, à distribuer du crédit, est un peu atténué par le credit crunch, ne peut qu'avoir des incidences sur un certain nombre de pays émergents.
Tout de même, est-ce qu'on ne peut pas dire que les pays émergents, sans pour autant porter la croissance, peut tout de même la tirer vers le haut un petit peu?
Oui, on peut le dire, mais en le disant, il faut essayer de réfléchir un peu à ce qu'on dit, comme toujours du reste. Je présenterai les choses de la manière suivante. Il y a une vingtaine d'années, les pays émergents représentaient entre un tiers et un quart du produit intérieur brut mondial de la planète. Et donc, leur capacité à faire ce que vous dites, c'est-à-dire à porter la croissance mondiale, était réduite de par leur place dans l'économie mondiale. Avec l'intensification des échanges et les taux de développement, de croissance qui ont été considérables depuis une dizaine d'années dans les pays émergents, la part maintenant des pays émergents dans le produit intérieur brut, la création de richesses annuelles du monde, est maintenant de 50%. C'est à peu près la moitié. Alors, il est évident, pour répondre à votre question, que le fait d'avoir 50% de l'économie mondiale vous met en meilleure posture pour porter, comme vous le disiez, dans une certaine mesure, la croissance qui pourrait, par définition, disons, pour la construction de l'analyse, faiblir dans les pays occidentaux. Il faut cependant savoir que les incidences d'une croissance nulle ou négative de la demande interne aux États-Unis ne sont pas à négliger. Si vous prenez toute l'histoire des récessions américaines depuis la guerre et que vous voyez quels ont été les effets sur les différentes régions du monde. Vous voyez que la récession médiane aux États-Unis, au cours de cette période, marque une contraction d'à peu près 3,8 point de PIB aux États-Unis, c'est-à-dire le passage entre le point de croissance normal et le point bas de la récession. Il se trouve que c'est autour de 4%, de 3,8. Et ces 3,8 se sont traduits sur les autres zones du monde par moins 2, c'est-à-dire une contraction de 2 points dans les autres pays industrialisés, essentiellement l'Europe et le Japon. En Amérique latine, 1,7, parce que les pays d'Amérique latine sont plus proches géographiquement des États-Unis et plus sujets à des variations du commerce extérieur américain. Et enfin, l'Asie émergente, elle, a été frappée à hauteur de 1,3 seulement, si je puis dire, dans sa croissance dans les crises passées. Alors, la question à laquelle on ne sait pas bien répondre, c'est que la nature du système économique des pays émergents a changé depuis cet historique que je viens de faire. Et donc, il ne faut pas attacher trop d'importance à cet historique. Et comme ces pays sont beaucoup plus intégrés dans le système mondial, comme je l'ai dit il y a un instant, il n'est pas impossible que le 1,3, si vous voulez, de transmission dans le sens d'une réduction de l'économie, soit en réalité plus important à travers les effets commerce extérieur. Mais on ne sait pas très bien le calculer. Mais supposons, pour répondre à votre question, pour donner un peu une image, supposons que la moitié du monde, c'est-à-dire les 50% des pays émergents, ne croisse plus aussi vite qu'avant la récession américaine, si récession il y a. Ils croissaient en moyenne entre 6 et 7%. La Chine, bien sûr, c'était 11, mais il y en avait d'autres. Et l'ensemble, c'était autour de 6 à 7%. Supposez que on dégrade un tout petit peu la relation que je viens d'indiquer. Au lieu d'avoir 1,3 d'incidence, qui est 2 points d'incidence, vous auriez à ce moment-là une économie émergente qui serait autour de 4 points de croissance, voire 4,5, ce qui n'est pas mal. Et par définition, vous auriez dans l'autre moitié, qui est largement tirée par les États-Unis, vous auriez une croissance proche de 0 ou de 1 point. Alors, si vous ajoutez 4 et 1, ça vous fait 5, et la moyenne, disons 3. Et donc, l'économie mondiale, au lieu de croître autour de 4,5%, comme on l'a vu depuis quelques années, croîtrait autour de 3. Et c'est pas en soi un drame absolu d'avoir 1,5, voire 2 points de croissance en moins. Mais il faut bien se dire que ces points de croissance dont je parle avec un peu de légèreté pour essayer d'illustrer le propos, ça représente quand même des chômeurs, des revenus par tête en moins. Et donc, il ne faut pas croire que finalement ça n'a pas d'importance parce que les pays en développement ont tel taux de croissance qu'ils peuvent absorber facilement de tels chocs. Je crois que ces chocs existent, qu'ils se traduiront par des baisses de régime à travers le canal du commerce international, et je souhaite que, à travers le canal financier, c'est-à-dire le canal qui amène des financements dont on a vu qu'ils étaient essentiels pour la continuation de cette croissance brillante des pays émergents, je souhaite que les canaux financiers ne soient pas trop perturbés par la crise financière actuelle. Donc le sujet est quand même un petit peu complexe.
Merci beaucoup Jacques de la Rosière.
Je vous en
Merci
prie.
Merci pour cette analyse.
Merci.